Il y a un thème que j'aimerais partager avec vous en cette matinée, parce que le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Je crois que vous le savez. Alléluia. Mais il est vrai aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu et dans notre marche d'enfant de Dieu, nous réalisons que cette marche n'est pas aussi facile que nous pensons. Nous croyons. Et il y a un terme que nous prenons, un mot que nous prenons qui est écrit dans la Bible. Il est dit que nous passions par diverses épreuves. Or, peut-être que les épreuves que nous connaissons, que nous avons connues, et aussi dire que nous connaîtrons, parce que notre vie d'enfant de Dieu est dans la main du Seigneur, et le Seigneur exerce à l'égard de chacun de ses enfants sa volonté, alors nous pouvons simplement dire que Seigneur, ta volonté soit faite. Mais dans la réflexion, il faut aussi se poser cette question simple. Qu'est-ce qui peut nous amener à connaître des difficultés dans notre vie d'enfant de Dieu et voire même à faire naufrage par rapport à notre foi? La parole de Dieu parle des épreuves, cela ne fait pas toujours plaisir, mais en fait, en réfléchissant, d'où l'épreuve peut-elle venir? Et en méditant la parole de Dieu, nous nous apercevons que parfois les épreuves sont permises, entre guillemets, mais elles arrivent parce que nous ne sommes pas peut-être tout à fait honnêtes envers Dieu, dans le sens que nous ne sommes pas toujours prêts à obéir, entre guillemets aussi, à sa volonté. Alors, j'ai pris, et j'essaierai d'être le plus court possible, mais des exemples de différentes épreuves dans la parole. Alors, le premier texte que je vais lire avec vous se trouve dans Jonas. Qui ne connaît pas la vie de Jonas? J'espère que chacun connaît au moins l'histoire de Jonas. Alors, on va aller au chapitre 1er, et là, on va lire quelques versets. Jonas, chapitre 1er, vous cherchez cela dans les petits prophètes et vous trouverez Jonas. Verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit. Amen. L'histoire de Jonas, elle est d'un enseignement certain et on pourrait même, quand on médite, trouver plusieurs informations, explications, exhortations pour notre vie d'enfant de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, vous avez certainement remarqué comme moi que le mot « épreuve » n'est pas employé, mais qu'il a été changé ou écrit en mot « tempête ». Et je ne sais pas si vous avez, vous, déjà été placé dans une tempête. Pour ma part, j'ai été placé dans une tempête et je peux vous dire que ce n'est pas agréable quand la tempête est forte. Et là, la tempête que Jonas a connue était une tempête forte. Et la question que l'on peut se poser, que l'on doit se poser, c'est que la tempête a été produite par Dieu par rapport à ce que Jonas a refusé de faire la volonté de Dieu. Mais je vais prendre un autre exemple qui est, mais après on fera le détail de ces lectures, qui se trouve dans Actes, qui va nous souligner le fait qu'un homme aussi, je vous rappelle et je vous dis déjà que Jonas était un homme qui connaissait Dieu, petit prophète. Maintenant, on va dans Actes au chapitre 27 et je lirai simplement là le verset 22e. Il s'agit de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul se trouva aussi dans une grande tempête. Et là, par contre, dans cette tempête, ce texte, nous le connaissons tous. Je voudrais simplement souligner cette parole de l'apôtre Paul au milieu de la tempête où il dira à tous ceux qui sont sur le navire, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. » Et puis, j'ajoute une troisième lecture dans Marc au chapitre 4 qui nous parle aussi d'une autre tempête. Autant dire les textes maintenant, Marc chapitre 4. Et cette tempête, eh bien, va concerner les disciples du Seigneur. Marc chapitre 4 et au verset 35e. Et il est dit ceci, « Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ? » Ils furent saisis d'une grande crainte et dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Voilà, donc nous avons là trois tempêtes. Et comme nous le disions en introduction, la première des tempêtes concerne Jonas. Et on s'aperçoit que dans ces tempêtes, il y a, on va dire, un verbe qui revient souvent, et qui est le verbe « périr ». Il est employé de différentes façons, « périront »,« périr »,« périra », »,« périssons ». Donc, il y avait dans ces tempêtes beaucoup de craintes et beaucoup de peurs pour ceux qui n'étaient pas conscients que Dieu était là aussi présent. Vous me suivez ? Oui ? Parce que je veux croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes conscient que le Seigneur est avec vous. Amen. Mais bien qu'il soit avec nous, je le répète aussi, n'a pas dit que nous ne connaîtrions pas d'épreuves ou de tempêtes. Alors, peut-être quelqu'un ce matin est au milieu de nous en ayant un lourd fardeau, étant dans une grande tempête, n'ayant pas de solution, mais il est bon qu'il sache que s'il est enfant de Dieu, Dieu est avec lui, dans la tempête. Même si toi tu es là pour la première fois et que tu es dans des difficultés, il faut que tu saches que si tu te tournes vers Dieu et si tu crois en Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant pour calmer les tempêtes et donner la victoire. Alléluia. Ce qui veut dire ce matin, mes frères et sœurs, que tu sois dans la tempête ou que tu sois dans la tranquillité, tu es venu dans ce lieu pour adorer le Seigneur. Ceux qui sont dans la paix et la tranquillité doivent louer le Seigneur. Je vois, vous êtes tous d'accord. Ceux qui sont dans la peine et dans la tristesse doivent louer le Seigneur. Parce qu'il détient dans ses mains la victoire pour chacun, la paix et la bénédiction. Par contre, je le disais aussi en introduction en ce qui concerne Jonas, c'est que Jonas se trouva dans la tempête parce qu'il refusa de faire la volonté de Dieu. Vous relirez, si vous voulez, le chapitre 1er quand vous serez à la maison. Il refusa de faire la volonté de Dieu. Et je crois que c'est un grave danger, je n'ai pas peur de ce mot, lorsque Dieu nous demande d'accomplir quelque chose ou de croire en ce qu'il dit ou en ce qu'il nous demande, c'est dommage de refuser de faire sa volonté. Et Jonas n'a peut-être rien dit parce que quand l'Éternel lui a parlé, il se leva et on pourrait croire, imaginer, il se leva pour accomplir sa volonté. Mais il se leva pour contrer sa volonté. Il est écrit pour s'enfuir loin de l'Éternel, pour se cacher de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, quand vous relirez le texte, vous vous apercevrez que Jonas n'a fait que descendre dans la vie spirituelle. C'est un exemple. Je m'explique. Quand il part, ou le texte biblique l'explique, Jonas se lève et il part. Où il va? Il écrit, il descendit à Jaffa. Le verbe descendit est bien employé. Il descendit à Jaffa pour prendre un bateau qui va le conduire loin de Ninive, où il devait aller. Il part pour Tarsis. Donc il descendit, il prend le bateau. Et là, dans le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le bateau. Bien, vous vous en doutiez. Il monte sur le bateau et il descend dans les cales. C'est-à-dire, il descendit au fond du bateau. Toujours pour fuir loin de l'Éternel, pour ne pas faire sa volonté. Dans son refus, il est contre ce que Dieu demande. Pourtant, il sait que ce que Dieu dit, il accomplit. Dans le texte, il le dira, quand vous lisez Jonas, il va le dire. « Je sais que tu es un Dieu rempli de bonté, de miséricorde. » Et c'est vrai, puisque Jonas va quand même accomplir la volonté de Dieu. Mais il aurait pu s'éviter tous les déboires qu'il va connaître. Parce que là, au fond de la cale, se croyant bien caché, il s'endort. Figurez-vous que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, spirituellement, on s'endort. On ne reçoit plus rien. Mais Dieu va mettre, puisqu'il nous aime, il va mettre en action tout ce qui est possible pour nous réveiller. Vous êtes bien réveillés ce matin? Physiquement? Comment vous ne seriez pas là? Mais spirituellement. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre écrira dans son épître « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Le sommeil, c'est un danger pour l'enfant de Dieu. Refuser de faire la volonté de Dieu, c'est grave. Et même si on se dit « Je ne veux plus rien entendre, c'est fini, je veux faire ce que je veux, je m'oppose à ce que Dieu dit », Dieu mettra tout en action parce qu'il vous aime pour vous ramener dans le droit chemin. Alléluia. Et là, Jonas qui se croyait bien à l'abri et bien caché, il dormait, il avait tout oublié parce qu'il paraît que quand on dort, on ne pense à rien. Alors il est là. Mais voilà que la tempête est là. Et qui a en fait que cette tempête arrive? Dieu. Il est dit, Dieu souffla. Un vent qui fit une tempête immense, à un tel point que tous croyaient qu'ils allaient périr. Mais ils cherchent aussi la cause, ils invoquent leur Dieu là sur le bateau. Rien n'y fait, le pilote il descend dans la cale et qu'est-ce qu'il trouve? Jonas. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu? Jonas se voit découvert. Et Jonas va dire aux pilotes et aux capitaines, aux autres marins qui étaient là, pourquoi il se trouve là, et il va expliquer qu'il est prophète de l'Éternel, il va expliquer que Dieu voulait l'envoyer à Ninive, et que bon, il n'était pas tout à fait d'accord. Ça, d'accord, c'est moi qui n'étais pas tout à fait d'accord, c'est moi qui le dis, parce qu'on le comprend. Et voilà que Jonas va donner la solution pour que le calme revienne. Oui. Mais entre parenthèses, il va donner la solution. qui est une solution humaine, une volonté humaine. C'est, entre guillemets, je vais prendre le mot, mais ne le prenez pas à 100% pour vous-même dans votre vie, c'est un suicide. Pourquoi ? Parce qu'il dira, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Erreur de Jonas. Parce qu'au lieu de dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, il aurait dû faire ce que le pilote lui a dit. Parce que des fois, Dieu parle au travers des inconvertis. Et le pilote lui a dit, invoque ton Dieu. Et il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas tourné vers Dieu. Il n'a pas là demandé pardon à Dieu. Il va dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Comme ça, on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé. Oui, mais Dieu est un Dieu bon. Dieu voulait que Jonas revienne dans sa volonté, dans son plan, exécute ce qu'il demande. Il ne voulait pas sa mort, il voulait qu'il aille à Ninive, annoncer le message de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était... Bien sûr, elle n'est pas si bonne que ça, quelqu'un pourrait me dire. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oui, mais quand ce message est arrivé à Ninive, toute la population de Ninive s'est mise à genoux sur le lac, sur le sac, la cendre, et ils ont imploré le pardon de Dieu jusqu'au roi qui lui-même se mit sur le sac et la cendre. Ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu a fait miséricorde et grâce. Tout ça parce que Dieu, permettez-moi de le dire comme cela, a repêché Jonas. Parce que Jonas croyait que une fois qu'il allait tomber à la mer, eh bien c'était bon, c'était fini. C'est vrai que quand il a été jeté à la mer, le calme est revenu pour les marins qui étaient. Il faut reconnaître aussi que les marins et le pilote, quand il a dit cette solution, Jonas, ils ont dit non, 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 on ne va pas te jeter à la mer. On va ramer et on va s'approcher du rivage, on va te laisser sur le bord du rivage. Et plus ils essayaient de ramer, plus le vent était fort, était contraire. Parce que la volonté de Dieu était là. Il fallait que Jonas demande pardon, s'humilie et revienne vers Dieu pour accomplir sa volonté. Alors c'est vrai qu'il fut jeté. Mais Dieu a toujours un plan. Et c'est là que nous voyons, ça va vous faire sourire, ça va vous donner de vos oxygénés, que le premier homme qui a inventé le sous-marin, c'est Dieu. Je vous ai dit que ça allait vous faire sourire. Mais c'est vrai, Jonas a été pris, il a été jeté dans l'eau, et en dessous, Dieu avait le sous-marin, un grand cachalot. Et quand Jonas tombe en bas l'eau, le cachalot a dit, non pas bon appétit, je le récupère. Parce que telle était la volonté de Dieu. Relisez le texte, c'est Dieu qui ordonna au cachalot de venir près du bateau et qu'il avale tout cru, tout entier, Jonas. Est-ce que Jonas est mort ? Non. Où était-il ? Dans l'estomac du cachalot. Et vous savez qu'il y resta quand même 3 jours et 3 nuits. Vous ne pensez pas que là, Jonas est en train déjà de vivre un miracle extraordinaire ? Parce que je n'ai pas regardé comment fonctionne l'estomac du cachalot. Mais je suppose qu'il a lui aussi un suc gastrique pour détruire les aliments qui rentrent dans son estomac. Ce qui veut dire que normalement, Jonas aurait dû être touché par ce suc gastrique qui est là pour détruire. Mais lui non, il est placé dans l'estomac, il y est là pendant 3 jours et 3 nuits, et enfin Jonas va comprendre. Et il va se tourner à nouveau vers le Seigneur. Vous lisez cela dans Jonas au chapitre 2, verset 10, prière de Jonas. Écoutez bien, je vous lis le verset et les paroles de Jonas. « Mais moi, je chanterai la louange. Et il est quand même dans le ventre du poisson. Hein. Mais là, il dit, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alléluia. C'est là qu'il revient vers Dieu. C'est là qu'il dit à Dieu, ben, j'accomplirai mes promesses envers toi. Et même là, du fond de cet estomac, dans l'épreuve où je suis, je chanterai les louanges de l'Éternel. Alléluia. Tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté. Mais est-ce que tu acceptes la volonté de Dieu? Ne t'es-tu pas mis en désaccord avec Dieu? Il t'a demandé quelque chose, tu ne l'as pas fait. Et tu ne veux pas le faire, parce que peut-être ça va te coûter. Mais quand on sert le Seigneur, il faut savoir sacrifier ce qui ne plaît pas à Dieu et faire sa volonté. Celui qui fait la volonté de Dieu verra la gloire de Dieu, verra la puissance de Dieu. Et si cette volonté, c'est que je passe au travers des difficultés, c'est qu'il est là pour m'en sortir et pour glorifier son nom. Ne permets pas à l'épreuve de t'atteindre parce que tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Mais je le répète, celui qui se soumet à la volonté de Dieu verra la gloire de Dieu. Ne rentre pas dans des épreuves qui peuvent t'anéantir. Il ne faut jamais résister à Dieu, jamais combattre contre Dieu, mais dire simplement que ta volonté soit faite, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Quand on lit ce combat de Jésus à Gethsémané, ça a été un combat difficile et terrible. Il savait les souffrances qu'il allait endurer. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance spirituelle, car il va être abandonné du Père. Il le savait. Pourquoi, mon Dieu, mon Père, m'as-tu abandonné? Il savait tout cela. Mais il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, nous, ce matin. Il a payé de sa vie parce qu'il nous aimait et parce qu'il nous aime encore. Car Jésus, quand il devient le maître d'une vie, il ne l'abandonnera jamais. La question c'est, est-ce que tu es prêt ce matin à accepter la volonté de Dieu, même si elle doit t'en coûter? Si tu acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième exemple que je cite, c'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se trouve aussi dans la tempête. Non pas parce qu'il a voulu, non pas parce qu'il n'a pas accepté la volonté de Dieu, bien au contraire, c'est parce qu'il fait la volonté de Dieu qu'il se retrouve sur ce bateau qui va aller à Rome. Parce que là, il a été pris, il est passé en jugement, il a fait appel à César, alors comme il fait appel à César, on va l'amener à Rome pour être jugé par César. Et il doit prendre, bien sûr, le bateau, seul moyen de communication à ce temps-là. Et le voyage est assez long, et arrivé à un port, il fut pris, qui était un port d'escale, arrivé dans une saison un peu hivernale, mais pour aller plus loin, il fallait passer par là, faire le plein certainement du bateau, avant de continuer sa route vers Rome. Et quand décision de pourparler entre les hommes de métier, entre le centenier qui était là et qui avait la responsabilité aussi de l'apôtre Paul, discutaient sur faut-il partir, faut-il, que va-t-on faire? Et que la décision était prête à lever l'ancre, il nous est dit que Paul est intervenu. Paul est intervenu et il a apporté lui-même quelques explications qui sont, je dirais, simplement de sagesse. Paul était un serviteur de Dieu, un apôtre, rempli de l'esprit, mais rempli de la sagesse de Dieu. Mais il avait aussi des connaissances. des connaissances qui lui servent dans la vie. Et là, il a fait part à ses pilotes, à ces gens qui faisaient naviguer ce bateau, à ce centenier. Il fera part que ceci dans le verset 10, je lis le verset pour pas me tromper. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Alors on est peut-être étonné de voir Paul s'exprimer ainsi, ayant une parfaite connaissance de la saison et des conséquences que pourrait supporter le bateau et que ce bateau soit en danger. Alors, je me suis un petit peu penché sur l'apôtre Paul et je vous cite ce que j'ai trouvé en ce qui concerne l'apôtre Paul à ce sujet. D'abord, vous le savez, Paul est né à Tarse et en Cilicie et ce Tarse, c'était un ancien port maritime. Et de nombreux navires marchands venant d'horizons différents, ce qui veut dire que dans sa jeunesse, puisqu'il était dans cette ville, près du port, Paul a dû passer une partie de son adolescence sur les quais et converser, s'informer sur la navigation avec les marins arrivant des villes d'Éphèse, Alexandrie, Corinthe ou Rome. Ayant toutes ces connaissances reçues lorsqu'il parlait avec les marins, il a apporté cette connaissance auprès du pilote, auprès du centenier, leur disant, « Eh bien, je pense que ce n'est pas bon que nous partions maintenant parce que cela serait à nos risques et périls. » C'était des paroles de sagesse. On peut dire que cette sagesse ne vient pas d'en haut. Peut-être, mais peut-être que Dieu lui a donné aussi l'intelligence pour se rappeler ce qu'il avait acquis lorsqu'il parlait avec les marins. La sagesse. Et on s'aperçoit, en continuant le texte, que le pilote, le centenier, les marins, tous ceux qui étaient là, n'ont pas donné leur accord pour rester dans le port où ils se trouvaient. Ils mirent le bateau, ils sortirent. Et au bout d'un certain temps de navigation, ce qui devait arriver, d'après l'apôtre Paul, ce qui devait arriver, arriva. Alors ceci me fait penser et dire simplement que nous pouvons connaître des épreuves parce qu'en fait, ne m'en veuillez pas, mais je ne fais que citer la parole parce que nous manquons de sagesse. Je ne parle pas de l'intelligence humaine. Je parle de la sagesse divine. Parce que pour tout enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu, Dieu dit que nous devons être remplis de sa sagesse. Et si nous manquons de sagesse, nous irons là aussi, dans certaines situations, à l'encontre de la volonté de Dieu. Or, il nous faut être remplis de la sagesse pour que nous voyons là encore dans notre vie la bénédiction divine et non pas l'épreuve. Je vous fais remarquer, entre parenthèses, que là, dans le texte de l'apôtre Paul, ce n'est pas Dieu qui a provoqué la tempête. Elle était là à cause des temps et de la nature. Mais c'est parce qu'ils ont manqué de sagesse qu'ils se sont mis eux-mêmes dans le danger. Et quel danger, puisque le bateau même fut détruit par, comme l'apôtre l'avait dit, pour le navire, il y a péril, pas seulement pour nos vies, mais il n'y restera plus rien. Et le bateau fut détruit totalement. Et Dieu avait dit à Paul, « Eh bien, prends courage, il faut que tu comparaisses devant César. » Et je te donnerai tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire, je ferai grâce à tout ce qui t'entoure. Non seulement il était rempli d'une certaine connaissance, intelligence, qui lui a permis de discuter avec les gens de métier, mais on ne l'a pas écouté. Mais de notre côté, quand il était dans la tempête, il a été encouragé par l'Éternel, par son Dieu, qui lui a envoyé un ange pour lui dire « Ne crains point ». Ce qui veut dire qu'au milieu de la tempête, d'où qu'elle vienne, soyons remplis de la sagesse de Dieu. Et ne doutons jamais que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et que dans toutes les tempêtes que nous pourrions connaître, Dieu nous envoie plus qu'un ange. Il nous envoie le Seigneur Jésus, son Fils bien-aimé. Et le Fils de bien-aimé, eh bien, nous rappelle les paroles que l'ange a dit à Paul. Ne crains point, crois seulement. Dans les tempêtes que tu peux connaître, dans cette difficulté que tu peux rencontrer, si tu es l'enfant de Dieu tel que tu dois être, tu ne dois pas t'affoler, tu ne dois pas craindre. Mais tu dois t'appuyer sur la sagesse de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la puissance du nom de Jésus. Car c'est par ce nom-là que Dieu agit tout puissamment. Et rien ne lui résiste. Et si même, tout autour de toi s'effronde, étant un serviteur ou une servante fidèle, Dieu prendra soin de toi et il confondra les moqueurs ou ceux qui s'opposent. Il les confondra. Et en les confondant, il peut même, par ton témoignage, par ta sagesse spirituelle, par des propos d'amour que tu pourras donner autour de toi, il pourra, dans sa grâce, les amener au salut. Soyons conscients que quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, voulues ou pas voulues, le Seigneur est toujours auprès de ses enfants parce qu'il les aime. Il fera tout pour les ramener s'ils s'égarent dans la bonne voie et il fera tout pour les protéger. Et je le répète, il fera tout pour confondre ceux qui nous entourent. Parce que ce que Dieu veut, c'est que par notre témoignage, par notre manière de vivre, de faire et de parler, c'est d'amener les perdus au salut. Alléluia. Le temps me manque, mais nous savons qu'après, Paul va connaître sur les rivages où il a trouvé avec tous les marins et tous ceux qui l'accompagnaient refuge. Nous savons que là, ils ont voulu faire un feu et dans ce feu, il fallait chercher les broussailles. Et quand Paul est revenu avec un tas de brindilles et qu'il a mis ça sur le feu, il nous a dit que alors un serpent venimeux, très puissant, était attaché à son poignet. Tout le monde croyait qu'il allait mourir, mais il mit sa main sur le feu. Le serpent laissa tomber la proie, le bras. Il tomba dans les feux, il fut anéanti. Les hommes ont été tous stupéfaits. Comment se fait-il? Il est toujours vivant. Mais la grâce de Dieu était sur lui. La puissance de Dieu était sur lui. Dieu lui avait dit, il faut que tu comparaisses devant César. Ce n'est pas un serpent qui va l'arrêter, la puissance de Dieu. Nous avons un ennemi. Il est le serpent. Il veut nous anéantir. Il veut mettre en nous de fausses idées, de faux raisonnements. Il veut en mettre devant nous de l'opposition, il veut nous freiner, nous arrêter. Mais il nous dit, je suis avec toi, ne crains rien. Alléluia. Le diable, car c'est lui le serpent, le rusé, il a été vaincu. Et il a été vaincu dès le livre de la Genèse. Relisez le texte. Il a été vaincu, il a été anéanti. Le diable fait des œuvres qui le trompent. Le diable veut nous arrêter dans notre marche par la foi. Mais celui qui reste fidèle, qui marche en comptant sur la grâce de Dieu, sur la puissance du nom de Jésus, celui qui veut faire la volonté de Dieu, je le répète, il verra la gloire de Dieu dans le temps présent et dans l'avenir. Alors c'est vrai. Jonas a connu l'épreuve parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu ou qu'il a refusé. Quand il a accepté, Dieu a pu à nouveau se servir de lui pour que des milliers d'hommes soient sauvés à Ninive. Paul a été passé dans une tempête, non pas parce qu'il a voulu, mais parce qu'il y a été placé, parce que personne n'a voulu écouter les paroles de sagesse, de connaissance, je dirais, de navigation, mis en prudence ces gens-là qui n'ont rien voulu entendre. Donc il subit l'épreuve par rapport à ceux qui lui ont fait opposition, qui n'ont pas voulu écouter. Puissions-nous, chaque fois que nous parlons, être entendus de ceux qui nous écoutent. Et je dirais simplement, parlons, non pas pour ne rien dire, mais parlons pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus aime les hommes. Jésus aime la créature. Jésus vous aime, vous tous qui êtes là ce matin. Et il a de grands projets pour chacun de nous. Et le plus grand des projets, c'est de nous recevoir dans sa gloire pour l'éternité. Alléluia. Et puis, il y a une troisième tempête que nous avons lue ensemble, et je termine. C'est les disciples. Les disciples vont être pris dans une tempête. Alors là, il n'y a pas de désobéissance, entre guillemets le mot désobéissance. Ils ont accepté la volonté du Seigneur Jésus. Jésus, après avoir enseigné, va se tourner vers ses disciples et leur dit, « Eh bien, passons à l'autre bord. » Et les disciples, ils ont pris le Seigneur Jésus, ils l'ont mis avec lui dans la barque. Passons à l'autre bord, ils prennent Jésus, ils montent dans la barque et ils commencent à ramer pour atteindre l'autre bord. Il n'y a pas là une contestation de la volonté de Dieu. Ils acceptent la parole de Jésus-Christ. Il veut aller de l'autre côté, il nous demande d'aller avec lui. On y va, on rame et Jésus est dans la barque. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne rame pas. Vous ne l'avez pas vu ça? Il dort. Il dort. Il se repose. Ah oui? Ça vous étonne? Mais j'aime vous dire ceci, ce verset qui dit « Jamais il ne sommeille ni ne dort. » Oui, ça vous réjouit, hein? Vous qui vous croyez seul, abandonné, délaissé, peut-être ce matin, je ne sais pas. Mais que fait le Seigneur Jésus? Je l'invoque, il ne me répond pas. Mais que fait-il? Mon épreuve est devant moi, elle est là, parce qu'en fait, les disciples, ils vont commencer à ramer, tout est bien, tout va bien. Et au milieu de la mer, il nous est dit qu'un tourbillon arrive, que la mer s'est agitée, qu'elle frappe les flancs du bateau, de la barque, et que le flot rentre dans la barque. Et ils disent, nous allons périr! Mais comment périr puisque Jésus est là? Vous voyez où je veux en venir? Enfin, où Dieu veut en venir? Je suis avec vous tous les jours. Ça n'a pas l'air, hein? Vous n'avez pas entendu? Je suis avec vous tous les jours. Pas moi, hein, il m'est impossible d'aller chez vous tous les jours. Hein. Mais le Seigneur, oui, il est avec vous tous les jours. 24 heures sur 24. Il a son regard sur vous. Ce regard d'amour. Il sait par où vous allez. Il sait ce que vous pensez. Il sait ce que vous allez dire. Il sonde les profondeurs de votre cœur. Il sait si vous êtes dans l'épreuve ou dans la paix. Il sait si vous êtes dans la joie ou dans les larmes. Mais il sait qu'il est la consolation et la victoire. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus. On croit qu'il dort. Non, il ne dort pas. Il prend soin de vous, comme il prend soin de moi. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur pour ceux qui jeûnent se sont tournés vers le Seigneur. Béni soit aussi le Seigneur pour les anciens, car je crois que depuis que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous l'avons vu agir dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, pas seulement physiques, mais parfois même matérielles. Il a été celui qui l'a pourvu à tous égards. Il est le fidèle, il est le Tout-Puissant. Alors c'est sûr que, je ne dis pas que c'est votre cas, mais regardez les disciples, ils rament, ils voient le vent contraire qui les empêche d'avancer, ils voient la mer qui rentre, ils commencent à s'affoler, ils s'apeurent, on va périr, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils vont jusqu'à le réveiller. Eh oui. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai été émerveillé parce que, vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu que quand Jésus a été réveillé, il leur a apporté la solution. Je ne sais pas ce que vous auriez répondu, vous, à la place de Jésus, mais peut-être que quelqu'un aurait pu dire, « Eh bien, ramez plus fort et nous arriverons plus vite. » Vous avez vu ça? Jésus n'a pas dit ça. Jésus s'est levé. Il a menacé le vent. Il a dit à la mer, « Tais-toi !» La mer s'est tue. Le calme est revenu. Le vent s'est arrêté. Tout a été aplani. Et Jésus prend la parole. Ouais. Et je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il a dit, parce que vous savez ce qu'il a dit à ses disciples. Avec beaucoup d'amour, il les a regardés, il leur a dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur ?» Sous-entendu, « Pourquoi vous avez eu peur alors que je suis dans la barque ? Vous m'avez vu bénir, vous m'avez vu guérir, vous m'avez vu faire la multiplication des pains, vous m'avez vu ressusciter les morts, vous savez que je dois aller donner ma vie. Alors, pourquoi avez-vous eu si peur ? Est-ce que j'ai changé à ce point ? Ce n'est pas parce que je dors que je n'ai pas le pouvoir de vous garder. » Mais Jésus ne dormait pas. Jésus veillait. Vous ne croyez pas qu'il était au courant de la situation ? Moi, je crois que oui. Et là, je parle par expérience. Quand j'étais dans la tempête, je savais que j'étais dans la tempête et rien ne m'aurait empêché de garder les yeux ouverts. Et je vous parle comme ça parce que... Et vous, vous dites, oh, c'est gentil. Oui, mais vous n'êtes pas passé par là où je suis passé. Parce que quand vous êtes dans une tempête dont les vagues font 7 mètres de haut, quand vous montez à l'échelle pour passer à l'étage supérieur et que vous montez, vous croyez que vous allez mettre le pied et vous avez l'impression que l'échelle, elle est par-dessous votre pied, et que vous avez des situations visibles qui vous demandent de fermer les yeux parce qu'il y en a qui sont apeurés. Vous voyez, quand on est dans la tempête, il y a de quoi s'affoler. Et quand le lendemain matin, la tempête s'était calmée, combien on était heureux de se retrouver sur le pont, parce qu'il faut vous dire que le bateau, ils avaient fermé toutes les écoutilles, personne ne pouvait monter sur le pont. On était pris ici quelque part au piège. C'est affolant. C'est vrai que quand on est dans une tempête, on peut s'affoler. Et je comprends la position de ses disciples qui se sont affolés. Ils essayaient de s'en sortir, ils n'arrivaient pas. Mais ils ont oublié l'essentiel. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas la mer qui rentrait dans la barque. Ils ont oublié l'essentiel. Jésus est avec eux. Et quand Jésus est là, il me dit, et je le répète aussi sciemment, « Ne crains pas, mais crois. Je veille. Je prends soin de toi. Car Dieu lui-même, dira-t-il l'apôtre, Dieu lui-même prendra soin de vous. Quelle que soit la situation, la difficulté, le problème, il prendra soin de vous. » Alléluia. Le problème, c'est est-ce que nous avons la foi ? Parce que Jésus a dit, et je précise, ça sera la terminaison. Jésus a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Pour cela, je disais tout à l'heure en introduction, si vous vous rappelez le titre, « Faire naufrage par rapport à la foi. » Si je perds la foi, je perds toute assurance en Dieu. Or, pour garder la foi, il faut être attaché à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à sa parole. Car c'est par la parole que nous fortifierons notre foi. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ma parole, dit le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui laissent des brèches pour que l'adversaire vienne mettre en nous le doute. Car la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, « Quand je demande quelque chose en son nom, Je crois qu'il a le pouvoir et la puissance de l'accomplir, que je ne doute pas, dira-t-il en mon cœur, et ce que je demande, je le verrai s'accomplir. Alléluia! Oui, nous pouvons passer par des temps difficiles. Oui, nous pouvons verser des larmes. Oui, nous pouvons avoir des difficultés. Mais oui, le Seigneur est avec nous. Va-t-il nous laisser? Va-t-il nous abandonner? N'est-il pas écrit que Dieu n'abandonne personne? Mais il est là pour nous aider, nous encourager, nous bénir, nous délivrer, nous guérir, nous montrer sa gloire et nous donner accès à la vie éternelle dans notre fidélité. Fidélité qui veut dire foi aussi. Alors, pourquoi ne pas se saisir de cette parole de l'apôtre Paul en terminant? Acte 27, 25. C'est pourquoi, prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu. Écoutez bien, j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu ne peut se renier lui-même. Ce que Dieu nous révèle dans sa parole, les promesses qu'il nous donne dans sa parole, il a la puissance, il a le pouvoir pour les accomplir. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Mais il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, prenez courage, je vous ai donné des promesses et je les accomplirai à votre égard. Prenez courage dans les temps difficiles, n'ayez pas peur, invoquez-moi et je répondrai. Prenez courage, je suis dans ta vie, je suis dans ta maison, je suis au milieu de ton foyer. Prends courage, ne doute point et compte sur ma puissance et sur mon nom. Et tu verras ma gloire, tu verras ma délivrance, tu verras ma victoire. Et sache, ou rappelle-toi, que la plus belle des victoires qui nous sera accordée, si nous demeurons fidèles, si nous ne faillons pas dans notre marche avec le Seigneur, mais si jusqu'au bout nous lui restons fidèles, alors n'est-il pas dit que par sa grâce, il nous prépare une place. Et cette place, il nous la réserve. Et le jour venu, il nous dit, cette place, je te la donnerai. Je l'ai préparée pour toi. Alléluia. Je l'ai préparée pour toi. Amen. T'accueillerai et je te dirai, c'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi, vous lirez cela dans les textes, entre, entre, bon et fidèle serviteur, entre, après les peines, les combats, entre dans la joie de ton maître. Que c'est beau, que c'est merveilleux, rentrer dans la joie du maître, ça sera formidable, frères et sœurs. Oui, mais soyons fidèles, acceptons sa volonté, faisons ce qu'il nous demande, croyons à sa puissance, et alors un jour nous recevrons par sa grâce la couronne de la vie, que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur,